Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech.
Le débrief de l'actu tech avec ce soir Claudia Cohen du Figaro.
Toujours là.
Rebonsoir Claudia. Bonsoir. Tariq Krim à tes côtés, fondateur de Cybernetica, fondateur de NetVibes aussi. Service à succès du milieu des années 2000, on s'en souvient. Ouais. Jolly Cloud un petit peu plus tard, etc. On a une vraie personnalité du net avec toi ce soir. Et puis Frédéric Simotel, bien évidemment, journaliste à BFM Business. J'aimerais donner la parole justement à Tariq. Tu as passé une grande partie de ta carrière aux États-Unis. Je ne sais pas si tu y es encore régulièrement.
Non, j'y vais de temps en temps, oui.
Voilà, mais tu as vécu aux États-Unis.
J'ai vécu dans la Silicon Valley.
Tu as fait une partie de ta carrière là-bas et tu voulais nous parler d'un glissement de cette Silicon Valley que l'on connaît, qui est en train de passer à la version 2.0. Explique-nous, tout ça part en fait d'un constat très simple. Ce sont les visas. Qui sont le déclic en fait de tout ça, c'était dans les années 90, je crois.
Alors, en fait, ce qui est incroyable, c'est qu'on l'oublie, c'est que les États-Unis ont une arme secrète, c'est le visa H-1B, donc le fameux visa qui leur a permis en fait de faire venir des talents du monde entier. Et c'est vrai que pour moi, quand je suis allé, alors moi j'ai travaillé là-bas dans les années 90, donc ça commence à dater. La grande époque des débuts de l'Internet, des prémices du cloud. Des sociétés comme Sun, Netscape, qui n'existent plus, Yahoo, voilà. Donc c'était une autre époque. Et moi, ce qui m'a fasciné quand je suis arrivé là-bas, c'est qu'il y avait des Français partout, dans tous les postes de technologie, et que c'était eux qui développaient les choses assez dures. Et donc je me suis rendu compte que Steve Jobs était un fan absolu.
Borland.
Voilà, absolument. Un nombre incroyable de gens. Et donc en fait, j'ai réalisé qu'il y avait un vrai talent dans l'informatique. Et ce qui m'a toujours un peu attristé, c'est que ce talent était valorisé aux États-Unis et, on va pas dire méprisé, mais minimisé en Europe. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que les besoins en talent sont évidemment très importants, mais avec la nouvelle géopolitique, c'est-à-dire le fait qu'on peut plus prendre d'ingénieurs russes pour les raisons qu'on connaît, quand on est américain, on peut plus vraiment prendre d'ingénieurs chinois maintenant pour les raisons qu'on connaît. L'Inde, curieusement, est en train de se dire, nous, on veut plutôt construire donc ça devient un peu plus difficile. Qu'est-ce qui reste? Il reste quelques pays. Il y a l'Europe, il y a un peu Israël. Et donc, ce que l'on commence à voir, je crois que c'est intéressant, c'est que pendant très longtemps, la Silicon Valley, c'était on reste centralisé et vous venez chez nous. Et vous travaillez chez nous. Mais avec, peut-être que c'est le Covid, c'est aussi l'arrivée de Trump et le fait que l'immigration sur les visas, c'est beaucoup plus difficile d'en obtenir. Désormais, on se dit, les gens veulent rester en Europe, donc on va les embaucher. Et évidemment, à l'occasion de Choose France, on a vu évidemment les sommes colossales qui vont être investies. Et je me dis à la fois que bon, c'est une bonne chose qu'on investisse, mais je trouve que finalement, on oublie que ces talents extraordinaires pourraient être utilisés pour régler les problèmes dont la France a, et l'Europe, notamment dans le domaine de la défense, dans le domaine de la technologie. Et c'est vrai qu'il y a un vrai sujet, c'est il y a une pénurie de talents, et pour l'instant, j'ai l'impression qu'une grande partie des gens vont aller dans ces entreprises.
Voilà, et en plus, comme aujourd'hui, le télétravail s'est démocratisé, c'est-à-dire que Google peut embaucher les meilleurs ingénieurs, les laisser en France, notamment. Donc pas de problème de visa. Alors ils peuvent peut-être de temps en temps se déplacer et aller au siège, mais leur travail, leur lieu de travail est la France. Je dis la France, mais ça peut être l'Espagne, l'Italie, n'importe où, etc. Et ça change complètement les équilibres.
Pas n'importe où, parce que quand tu regardes dans le domaine de l'IA, c'est essentiellement l'Angleterre et la France.
Oui.
C'est là qu'il y a vraiment des zones de talent très spécifiques, évidemment dans l'IA générative. On l'a vu. Mistral étant l'exception d'une certaine manière, enfin Mistral et les quelques entreprises, mais c'est vrai qu'il y a énormément d'ingénieurs. Et quand je dis ça, je ne dis pas que, on n'est pas contre le fait qu'il y ait une compétition, mais il faut qu'il y ait du choix. Et moi, ce que je trouve dommage, c'est qu'il y a des gens qui ont le talent, qui ont peut-être envie de travailler sur autre chose, mais il faudrait qu'on mette au moins autant d'argent, si c'était possible, dans la recherche, dans d'autres projets. Il faudrait qu'on ait toute une palette, en fait, parce que sinon, les projets intéressants, quand on fait de l'IA, quand on est jeune, c'est Google, Meta et Amazon et tous ceux qui se présentent aujourd'hui qui les offrent. Et je pense qu'il faudrait proposer des alternatives et investir un peu plus dans ces projets alternatifs.
Après, ce qui est intéressant, et tu le disais, c'est qu'il y a beaucoup d'ingénieurs qui font leurs armes dans ces boîtes américaines et puis après décident de revenir en France. C'est aussi
positif. Ouais.
Non, mais il y a deux choses. Hein. Je pense que ce qui nous manque est dans l'enseignement et le plus bas, parce qu'il va falloir voir ce qui arrive avec les générations suivantes. Mais globalement, hein, après, on peut aller établissement par établissement, trouver des exceptions. Mais je trouve que ce qui nous manque aujourd'hui, c'est qu'on n'entraîne pas assez les enfants à la culture et à la science. La culture, parce que ça permet quand même l'art, la littérature, théâtre, tout ça, ça permet de modéliser, de voir des idées. On oublie toujours le siècle des Lumières, hein. C'est quand même eux qui ont, par leur réflexion, qui a amené en partie la révolution. Et puis la science, parce que aujourd'hui, nous on a quand même des ingénieurs qui sont bons en algorithmie, mathématiques, donc dans les technologies, en modélisation des usages. Enfin, vraiment, c'est notre école de l'ingénieur à la française. Je pour la librairie de l'Écho là de Emmanuel Le Chip, je faisais un commentaire sur le livre de Pompidou. Et je lisais la lettre. Donc, c'est le dictionnaire Pompidou. Donc, il y a plusieurs lettres. C, Chirac, machin. Et I, innovation. Et on se rend compte, alors, tout n'a pas été formidable avec Pompidou. Le premier plan calcul s'est un peu planté. Le deuxième plan, voilà, on a vu ce que ça a donné. Mais quand même, lui, il mettait en place l'ingénieur et dit oui. Et c'est exactement ce que tu disais. L'ingénieur doit faire attention à travailler sur des sciences, mais en garder la maîtrise, parce que le jour où il sera dépassé par ça, non seulement la science se dépassera, mais sans doute que cette science, elle partira ailleurs dans d'autres pays, parce que nous, on ne sera pas capable de la maîtriser. Et c'est un peu ce qui se passe aujourd'hui. Voilà. Enfin voilà, il y a un boulot à faire en tout cas au plus bas de l'enseignement.
Claudia. Ce qu'il faut voir aussi, c'est dans les industries stratégiques. C'est vrai que aujourd'hui, dans l'affrontement géopolitique entre la Chine et les États-Unis notamment, il y a vraiment l'aspect militaire qui est au cœur de la conversation et autour de l'IA. Comment l'IA peut être appliquée dans le domaine militaire pour avoir des forces armées plus rusées et plus aiguisées en fait. Et c'est vrai que pour l'instant, c'est pas forcément un discours qu'on entend beaucoup en France. Et pour rejoindre ce que tu disais, Frédéric, sur dans le domaine de l'éducation, c'est dommage aussi qu'il n'y ait pas assez de discours sur comment vous pouvez rentrer par les filières scientifiques, mais pour vous retrouver finalement dans des domaines qui sont absolument critiques et très politiques aussi en France. Donc il devrait y avoir plus de pédagogie là-dessus. Et je te rejoins également sur l'aspect quand même peut-être d'inquiétude aussi. On a vu les classes PISA, évidemment, ils ont été très commentés sur l'effondrement du niveau de maths en France des enfants. Là, on peut se réjouir d'avoir toute une génération d'ingénieurs qui ont été extrêmement formés, qui sont les meilleurs en IA. Est-ce que demain, ce sera le cas aussi ? Est-ce qu'on sera au niveau ? Et surtout, on arrive vraiment à rester au niveau ?
Là, tu poses la question fondamentale. C'est aujourd'hui, on vit sur nos acquis précédents. La génération qui sont en train de faire les LLM, ils ont été formés il y a quelques années. La question, c'est combien de générations encore d'ingénieurs peut-on sortir ?
C'est 2 à 3, on estime que...
Voilà. Et sachant que les problèmes sont monstrueux, aujourd'hui, quand tu penses à la question militaire, aujourd'hui, tu ne peux plus faire la guerre. La guerre est un champ algorithmique. Tu n'as pas la compétence IA, tu es mort. Donc, on a changé de règles. Et cette question, alors moi, demain, je vais faire une conférence avec 600 hackers en Bretagne. Je suis très content de voir également dans les questions de la cyber, on a des manques énormes. Et c'est vrai qu'on oublie que le talent est rare et que le talent en France doit aussi servir à des projets qui vont servir la France. Parce que, mine de rien, même si Google offre des choses extraordinaires, Google travaille avec le département de la défense américaine, qui va donc on travaille pour la défense US, même si la défense US, en tout cas pour l'instant, nous protège. La question, c'est est-ce qu'on n'a pas aussi besoin de ces talents dans les sujets franco-français,
évidemment, évidemment.
Et Claudia parlait des sujets militaires, mais si tu refais un peu l'histoire des technologies, c'est les militaires qui ont tout amené, et même aux États-Unis plus récemment, hein, la Silicon Valley, alors c'est l'espace et les militaires, les grandes entreprises, Oracle s'est monté sur l'armée, et c'est vrai que si je reviens même en France dans les années 60, enfin en sortir des 30 glorieuses, hein, alors en 70, fin des années 60, faut se rappeler quand même, on était à peine 20 ans après la guerre. Il faut s'imaginer qu'aujourd'hui, c'est comme si on parlait, on était en guerre mondiale en 2004-2005. Oui. Ça permet de voir un petit peu pourquoi ils étaient un peu focalisés sur ces technologies de l'armement. N'empêche que ces technologies d'armée, enfin mettre de l'argent dans ce domaine, c'est ça qui a poussé un peu l'industrie, les avions, le transport, les mathématiques, l'algorithme.
Et puis n'oubliez pas que le général de Gaulle a dit...
Les communications.
Bien sûr, le général de Gaulle a dit il faut la bombe atomique, et pour avoir la bombe atomique, il faut un ordinateur. Et donc, il faut des avions. Donc, on a construit tout ça à une vitesse incroyable. Et puis après, le nucléaire, des choses comme ça. Et c'est vrai que, moi, je vois peut-être, le drame, c'est que je vois souvent les choses à 20 ans. Et je me dis, dans 20 ans, est-ce qu'on a les gens pour faire fonctionner les centrales nucléaires, pour faire fonctionner l'eau, les infrastructures? Il faut, en fait.
Même les data centers.
Voilà, c'est qu'on ne peut pas être que dans un monde d'influenceurs et de gens qui sont dans la communication avec des hyper généralistes. Il nous faut des spécialistes. Et c'est là où l'IA va, je pense, au contrairement à ce qu'on dit, ne pas enlever des boulots, plutôt permettre d'augmenter, parce qu'on va avoir une génération plus petite et la même somme de boulot, à mon avis, à gérer. Mais il y a une vraie question d'éducation et aussi une question de la gestion du talent. Et je trouve que dans la question de l'investissement étranger, même si c'est très bien, moi je trouve que c'est pas très cher payé. Tu sais, j'ai l'impression qu'on leur fait un discount parce qu'on a quand même des gens d'une valeur extraordinaire et que malheureusement, alors moi je l'ai vécu avec NetVibes et Jolly Cloud. En France, on reste quand même dans un environnement où c'est très difficile à partir d'une certaine somme. Regarde, avec Mistral, maintenant, les investisseurs sont qu'américains. La boîte va être de facto américaine. C'est un secret de polichinelle. Mais c'est dommage qu'on n'ait pas réussi à construire des géants, parce qu'aussi, à un moment donné, il n'y a plus d'argent européen. On n'a pas su mobiliser, investir.
Alors qu'il y en a de l'argent. Il y en a beaucoup d'argent.
L'Europe dépense des sommes.
Mais il est peut-être mal distribué.
Il est saupoudré. Enfin, tu vois, c'est vrai qu'il faudrait parfois dire, allez, on mise tout sur ces deux, trois boîtes-là, on y va, et puis tant pis pour les autres. Mais
c'est ce qu'on dit quasiment tous les soirs.
Mais c'est ce qu'on fait. Aux États-Unis, on ne se rend pas compte, mais c'est ce qu'ils ont fait. Oracle a été le numéro un mondial de la base de données parce qu'un jour, l'armée américaine a tout misé sur Oracle et qu'Oracle a développé ses produits. Et grâce à ça, ils ont eu une avance considérable sur les autres. Et ça a été comme ça pour beaucoup.
Mais tu fais une logique aujourd'hui d'industrie critique. Tu définis trois grandes routes, tu identifies les entreprises qui ont le plus besoin de fonds,
et tu
es dans une logique assez différente à laquelle on est aujourd'hui. Parce que là, je veux dire, tous les investissements qui vont dans des boîtes d'IA, on parlait d'utilisation dans notre quotidien, de choses qui peuvent aussi parfois s'apparenter à des gadgets, parfois on peut questionner l'utilité aussi, est-ce qu'on a vraiment besoin de ça, alors que pour des industries critiques, là, la question ne se pose pas.
Je peux être un peu polémique.
Oui.
Moi, ce qui m'a plu aux États-Unis dans la vallée, pour avoir eu quasiment que des investisseurs, j'avais Marc Andreessen, des gens comme ça, donc j'ai jamais eu vraiment d'investisseurs français, c'est que les gens ont, un, là-bas, monté des boîtes, et deux, sont des ingénieurs, des techniciens. Tu prends quelqu'un comme Vinod Khosla, genre comme ça, c'est des pontes. Aujourd'hui, les techniciens ont disparu de la décision. Or, comme on parle d'informatique, il faut aussi, faut pas uniquement des communicants ou des influenceurs, il faut aussi des gens qui savent de quoi ils parlent. Et ça, c'est vrai aussi dans les questions de technologie, de cyber.
Le meilleur cas, c'est Boeing, peut-être.
Ouais.
Mais qui en fait est dans une situation très compliquée parce que ce sont les financiers qui ont pris les rênes de Boeing, alors qu'avant c'était les ingénieurs.
Et là on parle de Flamanville. Moi ce qui me fascine, c'est, on me dit, c'est peut-être en retard, mais il faut se rappeler une époque où on construisait 3 centrales nucléaires par an. C'est-à-dire qu'il y a une époque d'expertise. On a arrêté d'être bon le jour où on a arrêté de construire, et on a arrêté d'être bon en informatique et l'électronique le jour où on a arrêté de fabriquer, et qu'on a tout délocalisé en Chine. Il ne faut pas l'oublier.
On enchaîne, on parle d'IA toujours, avec bien justement un focus sur l'un des articles de Claudia sur l'IA et les avocats. Parce que, évidemment, l'IA, le juridique d'une manière générale, hein, l'intelligence artificielle est en train de bouleverser les cabinets d'avocats. Tu as fait une longue enquête qui a été publiée il y a quelques heures.
Oui.
Raconte-nous.
En fait, dans la logique de l'automatisation des tâches qui peut être faite grâce ou à cause de l'IA générative, c'est vrai que le monde juridique, si on simplifie un peu, on a un corpus assez structuré de données et surtout fini aussi, sur lesquels les avocats, des juristes vont s'appuyer pour ensuite faire leur stratégie, prendre une décision. Et donc, à mon sens, c'était vraiment un des domaines qui était le plus à même à être disrupté, comme on dit en bon français, par l'IA. Et alors, j'ai commencé par les plus gros cabinets. Évidemment, tout vient à la base des Américains. Le plus gros, c'est un cabinet qui s'appelle A.O. Sherman. Donc, c'était la fusion entre Allen Overy et un autre cabinet qui s'appelle Sherman. Et en fait, eux, ils ont déjà, depuis 8 mois, voire 1 an, 2 types d'outils. Il y a un outil qui est proposé par OpenAI, qui s'appelle Harvey, qui est en fait un outil qui réunit tout toute la jurisprudence qui réunit tous les textes de loi, qui réunit pas mal de données et qui permet en fait de simplifier. Alors eux me parlaient de gagner 4 à 5 heures sur une recherche assez basique que un collaborateur ou un stagiaire peut faire. Et ils ont inventé un autre outil où là en fait tu plugs les contrats de la boîte dans l'outil et ça te permet en fait de faire de la révision de contrat de façon beaucoup plus facile.
Alors qu'avant c'était tellement chronophage, j'imagine.
C'est extrêmement chronophage, c'est pas non plus l'aspect le plus intéressant aussi du milieu.
Valorisant pour
l'avocat. Et ce qui est très intéressant, c'est que là-dessus il y a vraiment une bataille aussi des gens de la tech, parce que donc là j'ai parlé d'OpenAI.
Les éditeurs de logiciels,
il y en a un qui est un français qui s'appelle Gemini, à ne pas confondre avec Gemini, exactement, qui propose aussi ce type d'outil. T'as un anglais qui s'appelle Luminance, t'as même une plateforme suédoise aussi qui a approché énormément de cabinets en France qui s'appelle Leia. Et en fait, aujourd'hui, tout le monde regarde et ils sont rentrés dans une espèce de compétition où évidemment tout ça coûte extrêmement cher. Et vu que les plus gros cabinets commencent à s'équiper, en fait, ceux d'en dessous sont obligés de facto de trouver en fait à leur hauteur avec l'investissement qu'ils peuvent mettre ce type d'outils, parce qu'en termes de productivité, on va vers une concentration du secteur, en tout cas des cabinets d'avocats, qui sera encore plus importante et qui pourrait créer d'énormes inégalités ailleurs.
Alors, j'imagine que ça a des conséquences aussi sur les salariés, non ? Est-ce qu'il y a des métiers, enfin des employés qui ont été impactés par l'arrivée de ce type d'outils ?
Bah, en fait, dans les gros cabinets, pas tellement, parce qu'en fait, t'as pas mal de tâches qui étaient déjà externalisées dans des pays comme l'Inde ou la Thaïlande, par exemple, ce qu'on me racontait, dans les petits cabinets.
Et donc, ils font moins appel à tous ces sous-traitants.
Ils ne font plus appel. Ah, voilà, les cabinets que j'ai eus, j'en ai cité un autre français qui s'appelle.
Donc, c'est un impact social, mais qui est déporté en fait.
Voilà, qui est déporté. Après, sur les plus petits cabinets, qui représentent en fait 90% des cabinets en France, il y a un impact sur les juristes. Sur les juristes, parce qu'on va faire un peu moins appel à eux sur certaines tâches, et il y a surtout un impact sur les juniors qui arrivent dans le cabinet, parce que pour eux, ces tâches répétitives, c'était aussi une manière de se former. Ça représentait un peu un socle d'apprentissage avant de passer à des étapes plus analytiques et plus profondes. Et c'est vraiment sur ça, sur cet aspect sur lesquels ils essayent de travailler, et notamment parce qu'avec ces outils, tu vas avoir une réponse qui a l'apparence d'une réponse parfaite, mais on le sait très bien, la réponse n'est jamais parfaite, malgré l'outil. Et ce que m'expliquait un des associés de Gite, c'est que lui, il essaye de dire à ses stagiaires qui ont déjà en fait des outils en main, ne perdez jamais l'esprit critique en fait, parce que la réponse n'est pas celle qu'on attend finalement. Il y a encore du travail à faire derrière.
C'est encore les enjeux de la formation, hein.
Mais oui,
De la culture,
Du jugement.
Ouais, non, mais jugement. Et c'est pour ça que je parlais de culture et des sciences. La culture, c'est la culture qui t'amène à te poser des questions et à évaluer des situations.
Tariq, sujet passionnant aussi, hein.
Passionnant, évidemment. Moi, c'est la question que je me pose toujours, c'est quand on me dit on va arrêter de prendre des stagiaires ou des juniors. Or, quand on est un cabinet d'avocats, le modèle, c'est de former des gens qui vont devenir ensuite les gens qui travaillent pour toi. Donc, il y a la question que je me pose. Alors Je vais lire évidemment avec intérêt cet article. Ça veut dire que les gens qui maîtrisent l'IA vont devenir avoir une compétence que n'ont pas les seniors, ou est-ce que ça va être l'inverse? Et puis une autre question, moi, que je me pose en l'IA d'un point de vue plus général, c'est quand tout le monde utilise les mêmes outils et donc a le même retour, c'est-à-dire quand tout le monde fait la même chose, quelle est ta valeur ajoutée? Et c'est une question que je me pose dans d'autres domaines, évidemment, que le droit, mais on a une forme d'uniformisation du produit qui est livré, alors que la vraie valeur, et puis t'as cabinet d'avocat pour avoir eu plusieurs, c'est aussi le conseil, c'est l'humain, c'est la créativité, évidemment avec la connaissance du droit. Mais moi, je me rappelle des premières choses sur GPT où on inventait des choses, et je crois que des gens sont allés voir des juges et se sont trouvés dans des situations très embarrassantes. On a peut-être passé cette étape quand même.
Non, mais là-dessus, c'est intéressant ce que tu dis, parce que en fait, à partir du moment où les plus gros y sont allés, le reste, tu es obligé d'y aller, ne serait-ce que pour avoir une mise à niveau et être à niveau équivalent là-dessus.
Un mot sur une information beaucoup plus grave. Hein. Vous suivez bien évidemment depuis quelques jours ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie. C'est dramatique. État d'urgence, bien évidemment, des militaires. Et puis, cette information qui est tombée très rapidement, TikTok est banni en Nouvelle-Calédonie. C'est-à-dire qu'on ne peut plus, depuis son smartphone. Alors, je crois que sur le PC, ça marche encore, d'après ce que j'ai pu lire, mais sur le mobile, ça ne marche pas. Et la question qu'on se pose, alors on sait pourquoi, parce qu'on peut imaginer que, évidemment, il y avait des groupes de discussion.
Et puis ça attire les autres. Et
voilà.
Puis,
du coup, mais la question qu'on se pose, c'est pourquoi TikTok et pourquoi pas les autres ? Pourquoi pas Snapchat ? Pourquoi pas Instagram ? Pourquoi pas Facebook ? Et je ne sais pas si vous avez eu le temps de réfléchir à ça et si vous avez un élément de réponse. Évidemment, TikTok ne réagit pas. Le gouvernement ne réagit pas. N'explique pas pourquoi. À l'heure où on vous parle, hein, il est 20h55. Et on peut se poser la question pourquoi ?
Bah, comme tu disais, personne ne réagit officiellement. Officieusement, ce qu'on a cru comprendre, c'est que, parce qu'il y a eu des déclarations du ministre Darmanin autour d'ingérence de l'Azerbaïdjan en Nouvelle-Calédonie, et à côté, il y a eu cette communication autour de TikTok et de son bannissement. Ce qu'on comprend, nous, c'est qu'il y a quand même un rapport aussi entre les deux, et que cette ingérence d'acteurs étrangers comme l'Azerbaïdjan s'est fait principalement
sur TikTok,
et que ce serait une des raisons qui expliquerait que TikTok est exposé aujourd'hui à ce bannissement.
Tariq ? Sujet complexe, bien sûr.
Sujet complexe, géopolitique. Le problème de TikTok, c'est que c'est un système que les États-Unis et les démocraties occidentales ne contrôlent pas. L'Inde l'a coupé.
Ouais.
Les États-Unis veulent désormais dire soit ça devient américain,
soit on arrête.
Ouais. Et c'est parti pour aller...
Ça risque d'arriver ici aussi chez nous. Hein. Enfin, je veux dire, cette petite musique commence à être de plus en plus forte et je pense que ça va arriver.
Mais la question, c'est effectivement, alors, est-ce que l'Europe a un véritable pouvoir ? Il y a évidemment le DMA, DSA, mais surtout, d'un point de vue géopolitique, quelle va être notre position ? C'est compliqué de commenter parce que moi, j'ai pas d'infos particulières et comme vous, je l'ai entendu et j'ai été surpris par le fait que ça soit fait aussi rapidement. En général, on hésite.
C'est la loi le permet, mais
c'est un peu l'arme nucléaire. Et après, la question qui est posée, c'est effectivement des réseaux sociaux, c'est qu'on ne les contrôle pas vraiment, on n'en contrôle pas le narratif. Il n'y a pas que les informations, il y a aussi la stabilité émotionnelle. C'est-à-dire que souvent, quand on regarde ces vidéos, on devient énervé et ça crée un sentiment d'énervement qu'on voit régulièrement. Et ça, ça pose une vraie question parce qu'on a toujours, depuis 15 ans, que des réseaux existent, on n'a toujours pas trouvé de solution à ça.
Je pense qu'il y a pu y avoir, comme il y a eu aux États-Unis, quand il y a eu certains types d'émeutes. Alors, je n'ai pas en souvenir de grosses émeutes avec les réseaux sociaux. Hein, ils n'ont pas eu ça depuis. Enfin, il y a eu des grandes émeutes aux États-Unis, mais les réseaux sociaux n'étaient pas nés. Je pense aussi qu'il y a une négociation qu'on ne doit pas maîtriser au niveau européen, au niveau français. On sait à qui s'adresser chez Google, on sait à qui s'adresser chez Facebook, enfin chez Meta, on sait à qui s'adresser voire chez X, Twitter, TikTok. Mm-hmm. C'est un peu plus complexe. Hein. Le décideur, même s'il est à Bruxelles, enfin, il y a sans doute des représentants TikTok à Bruxelles, mais c'est pas eux qui décident. Là, le lien, je pense qu'à Bruxelles, il y a quelqu'un, il a un lien direct avec Mark Zuckerberg, il a un lien direct, et les liens qu'a pu nouer, notamment au niveau français, Emmanuel Macron avec ses patrons, je pense qu'il a peut-être qu'il a réussi à leur dire, écoutez, essayez de modérer un peu, voyez ce qui se passe là-bas.
Ouais.
C'est une possibilité. Hein,
alors, il faut savoir que techniquement, on se dit, mais comment on peut couper un TikTok
C'est le protocole. Hein,
protocole DNS.
On filtre.
Voilà.
Et il y a un seul opérateur aussi en Nouvelle-Calédonie.
Il y a un seul opérateur
qui facilite la tâche.
En Nouvelle-Calédonie. Ce qui fait que c'est peut-être pour ça que ça marche sur les ordis,
et puis pareil, par zone géographique, TikTok est aussi sur des data centers qu'on sait repérer.
Oui, qu'on arrive à maîtriser.
On coupe les liens, et puis voilà. Et notamment, je parlais de Oracle tout à l'heure pour Tesla, ils sont beaucoup chez Oracle, donc on arrive à mieux maîtriser ces instances-là que d'autres.